Joignez sur Internet aujourd'hui, journée burkinabé. Alors, on va commencer par un chant. On va le mettre à notre répertoire. Hein. Alors, vas-y, allez-y, les musiciens, vous écoutez.
Barkao, wenam, barkao, wenam, yamdong lom yakasega. Barkao, wenam, barkao, wenam, barkao, wenam. Yam dong lom ya kasinga barka o wenam barka o wenam barka o wenam yam dong lom ya kasinga barka o wenam barka o wenam barka o wenam yam dong lom ya kasinga barka o wenam barka o seigneur merci o seigneur. Ton amour y est infini. Merci, ô Seigneur. Merci, ô Seigneur. Merci, ô Seigneur. Ton amour y est infini. Merci, ô Seigneur.
On s'applaudit très fort, on le mérite bien. Quelle horreur. Si les Africains nous entendent là-bas en Afrique, ils vont se dire, mais c'est quoi ces petits blancs là? Ces petits pots de yaourt qui essayent de chanter comme nous, Barkao Wenam. Quelle histoire! Mais enfin, ils chantent bien en français, hein? Des fois, c'est rigolo quand ils chantent en français aussi. Donc, on peut aussi rire. Il y a la joie avec le Seigneur. Et puis, on est joyeux pour des choses, pas simplement comme ça, une joie éthérée, mais pour des réalités. Et ça, c'est une réalité. De pouvoir chanter en Barkao machin, c'est super. ça fait rire, Nicolas, il rit avec toutes ses dents, là. Alors, on en fait un de bien de chez nous, là. Et puis, après, on va prier le Seigneur.
Je suis arrivé un peu en retard parce que j'étais dans mon bureau, je lisais ma Bible et le Saint-Esprit est venu sur moi et il m'a dit quelque chose pour vous et je voudrais vous le dire. Bon, je sais que c'est Nicolas qui va prêcher après, mais là, je me sens pressé de vous dire ces choses-là. Je voudrais qu'on lise d'abord le psaume 128. Heureux quiconque craint le Seigneur et suit ses voies. Tu jouiras alors du produit de ton travail. Heureux es-tu, le bonheur est pour toi. Ta femme est comme une vigne féconde au fond de ta maison, tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint le Seigneur. Le Seigneur te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Amen. Le Talmud dit une chose, pose une question et donne la réponse. Le Talmud dit, y a-t-il un juif illettré? Et la réponse est oui, lorsqu'il vit chez les gentils. Tous les juifs qui vivent chez les gentils ne sont pas illettrés, au contraire. Mais il a plus de chances de devenir illettré quand il vit chez les gentils parce qu'il y a une ambiance. Est-ce que vous comprenez? Une ambiance. Quand les Juifs sont arrivés en Europe, en particulier dans l'Europe de l'Est, ils vivaient parmi des illettrés. Et parmi eux, il n'y avait aucun illettré. Les Juifs n'étaient pas... On ne peut pas être des illettrés quand on est les gens du livre. Nous sommes les gens du livre. Amen. Nous sommes les gens du livre. Frères et sœurs, bon, je vais faire comme dans le psaume, plutôt que de dire mes frères et sœurs, je dis mon frère, ma sœur, tu es heureux si tu crains l'Éternel. Tant que tu es vivant, tu dois continuer à apprendre comment vivre. Dans le psaume 28, il nous a montré la direction, c'est craindre le Seigneur et connaître les voies de Dieu. Dieu est la parole. Et quand on s'exprime, on emploie des mots. Les mots que Dieu emploie, quand il parle à des Français, c'est du français. Alors ça ne nous empêche pas d'apprendre l'hébreu, l'araméen, tout ce que vous voulez. Mais notre langue n'est pas méprisable du tout. C'est Dieu qui a permis que nous parlions cette langue. Il nous a mis dans cet endroit pour que nous parlions cette langue. Comme là-bas, chez notre frère Nicolas, il parle le moré. Nicolas, lui, parle le moré raffiné. Dieu est la parole. Les mots que Dieu emploie, dans sa bouche, ils deviennent vivants. Et lorsque nous laissons les mots de Dieu, c'est les mêmes mots qu'on emploie tous les jours. Lorsqu'on laisse les mots de Dieu, les mots qui sont sortis de la bouche de Dieu, entrer dans notre cœur, alors nous sommes vivants. Ça veut dire quoi les laisser entrer dans notre cœur? C'est-à-dire entrer dans la réflexion. La réflexion dans le sens de réfléchir, mais aussi dans le sens de, comme la lune, réfléchir. C'est-à-dire, Dieu nous la donne pour que nous la donnions. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas reçu. Tu seras vivant de la vie de l'Éternel. C'est-à-dire que tu n'auras pas seulement la vie éternelle dans le sens de la vie à perpète, mais tu auras la qualité de la vie de Dieu. Amen. De nos jours, la langue française est maltraitée. Et le langage que Dieu nous a donné, à nous, chez les gentils, nous devons faire attention à ce langage. Mes frères et sœurs, n'imitons pas les gentils. N'imitons pas les gens de ce monde. N'imitons pas ces gens-là. Imitons les sages des Écritures. Imitons les gens de la parole. Regardez les prophètes d'autrefois, regardez ces hommes et ces femmes de Dieu consacrés à la parole, aux mots du livre. Jésus est la parole faite chair. Le mot Jésus, c'est quelque chose de puissant, c'est le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. Quand on invoque le nom de Jésus, les démons s'enfuient. Et l'anacronyme de Jésus, c'est « ictus ». Je pense que vous savez déjà ces choses. I, ictus, c'est un mot grec. I comme Yeshua, Dieu sauveur. X comme Christ, en grec ça commence par le X. Ensuite de Dieu, ensuite Fils, ensuite sauveur. Jésus, Christ de Dieu, Fils sauveur. Et le symbole graphique de ictus, c'est le poisson. Vous allez dire que je parle comme un intellectuel. Non, vous n'allez pas le dire. Les analphabètes le disent. Ictus signifie poisson en grec. Ictus. Mes frères et sœurs, le poisson n'est heureux que dans son élément, dans l'eau. Or, Jésus est venu sur la terre. La parole est venue sur la terre. Le poisson sur terre, Jésus est le poisson sur terre qui n'est pas dans son élément. L'élément de Jésus, ce n'est pas la terre, c'est le domaine de l'esprit. Mais il est venu, il s'est fait chair, il est venu sur la terre. Et le poisson sur terre nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le poisson sur terre, Jésus est venu de Dieu sauver nos âmes pour que nous puissions devenir fils et filles de Dieu. Il nous a donné le pouvoir de recevoir la vie éternelle, le style de vie de l'Éternel, une vie spirituelle. Le pouvoir de devenir fils comme lui, des poissons sur terre comme lui. Mes frères et sœurs, il nous apprend comment être heureux comme des poissons sur terre. Si vous cherchez à être heureux comme des poissons dans l'eau, vous êtes à côté. Vous ne pouvez pas être heureux comme les gens de ce monde. Notre source de joie ne se trouve pas dans les choses de ce monde. Frères et sœurs, sans l'étude des mots de Jésus, des paroles de Jésus, nous ne pouvons pas être heureux, c'est-à-dire en marche, c'est-à-dire en progression dans la prospérité. Nous ne pouvons pas, c'est une fausse progression, si nous ne la trouvons pas en Jésus. Parce que nous ne sommes pas ici, nous ne sommes pas dans notre élément naturel. Nous sommes... D'ailleurs, nous ne sommes pas de ce monde. N'imitons pas ceux qui aiment rester les inalphabètes de Dieu, les bébés de Dieu. Mon petit-fils est un analphabète. Mais il a quelques jours. C'est possible pour lui d'être un analphabète. C'est normal pour lui. Parce qu'il n'a pas encore eu le temps d'apprendre. Mais c'est en apprenant qu'on devient les érudits de Dieu. Et c'est ce que nous devons d'être les érudits. On doit arrêter d'être des bébés. Les gens qui sont des analphabètes de Dieu, j'ai dit inalphabète tout à l'heure exprès, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas le mot analphabète. Pas vous, mais peut-être d'autres. Eh bien, les analphabètes de Dieu s'illusionnent avec des expériences charnelles, c'est-à-dire qu'étant dans leur corps, ils touchent à certaines choses de l'esprit et font des expériences, mais ça n'apprend pas. Ça ne leur apprend rien au sujet de comment se comporter, parce qu'on ne peut pas se comporter spirituellement avec la chair. La chair, elle doit mourir. Alors, laissons-les parce qu'ils se croient heureux comme des poissons dans l'eau, c'est super. Oh, j'ai la joie, alléluia, alléluia. Nous, les poissons de terre, renonçons à l'ignorance. Celui qui cherche, y trouve. Renonçons à l'ignorance. Nous avons trouvé jusqu'à ce jour la nourriture dont nous avons besoin. Nous trouverons notre pain quotidien demain. Ne nous faisons pas de soucis. Dieu nous donnera ce dont nous avons besoin. Notre vraie nourriture, ce sont les mots qui sortent de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça que ça veut dire, mes frères et sœurs. Nous mangeons du pain, le pain de la terre, parce que nous habitons encore dans un corps de chair. Mais ce n'est pas ça qui doit être là. Ce n'est pas la recherche de ce pain qui doit être notre principale recherche, notre combat de chaque jour. Ce n'est pas pour ça que nous nous battons. Ça, Dieu va nous le donner par-dessus si nous craignons l'Éternel et si nous cherchons à connaître ses voies. Or, Dieu a parlé aux anciens poissons de la terre. Il a parlé à des gens qui ne sont plus aujourd'hui. Mais grâce à Dieu, il y a l'Écriture. Il y a l'Écriture. Ces hommes, ces femmes de Dieu ont écrit. Ne méprisons jamais leurs écrits, parce que leurs écrits, c'est leur vie. Leurs écrits sont la somme de la sagesse que Dieu leur a donnée. Pourquoi nous mépriserions cela? Pourquoi nous ne lirions pas Calvin? Oui, mais Calvin avec sa prédestination. Restez comme des poissons dans l'eau puisque vous êtes heureux comme ça. Nous sommes d'un autre monde, mes frères et sœurs. Ils nous ont transmis, grâce à l'Écriture, des connaissances que nous devons approfondir. Parce que nous qui sommes vivants, nous avons besoin d'apprendre comment vivre maintenant. Et ces gens-là ont acquis une somme d'expériences spirituelles que nous devons absolument connaître. Mes frères et sœurs, lisons la Bible, mais lisons aussi ce que les saints qui nous ont précédés, les poissons de terre qui nous ont précédés, lisons aussi ce qu'ils ont écrit, afin de nous imprégner. Tout ce qu'ils ont écrit, si nous prenons cela dans notre vie, nous n'aurons pas besoin de faire les mêmes expériences pour pouvoir les vivre. Il suffira simplement d'ouvrir notre cœur et cette parole-là fera partie intégrante de notre vie et de notre expérience. Parce que nous aurons eu l'humilité de dire, « Eh bien, mon Dieu, je veux me conformer à ce que tu as donné à ces anciens. » Mes frères et sœurs, ne restons pas dans l'ignorance comme des bébés à simplement nous contenter de taper dans les mains et de nous réjouir. Alléluia, alléluia. Non, 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 non. Nous devons être des gens sérieux. Ce matin, Nicolas va nous apporter la parole de Dieu. Je crois que c'est un homme de prière. Ce qu'il a reçu de Dieu pour nous ce matin, écoutons-le. Prenons-le. Vivons-le. Que Dieu soit béni. Nicolas, je te laisse le micro. Que Dieu te bénisse. Amen. Notre frère Nicolas Savadogo.
Gloire à Dieu. Merci pour ces paroles qui sont très touchantes. Ce matin, je suis très content encore d'être parmi vous. Et je bénis Dieu pour cette opportunité qu'il me donne d'être là et enfin de vous rendre visite et de partager une pensée du Seigneur avec chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Merci pour l'hospitalité. Et je me sens très bien ici à chaque fois que je viens. C'est magnifique, c'est très intéressant. Et souvent quand je raconte ce qui se passe ici en Afrique, et beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre. Souvent, il y a d'autres même qui me disent, surtout les pasteurs, quand même tu mets un peu de sel dans ce que tu dis. Bon, mais voilà. Et je suis très content pour la vie, pour ce qui se passe ici, que réellement Dieu vous bénisse. Et merci également pour vos soutiens dans toutes les formes. Et nous sommes très touchés et on avance aussi avec le Seigneur chez nous. Et nous bénissons Dieu pour cela. Et ce matin, le privilège qui m'a été donné pour partager la parole de Dieu avec vous, et c'est quelque chose qui est très bien, mais ce n'est pas seulement vous prêcher ou vous dire ce que Dieu a mis dans mon cœur, cela également me concerne. Donc, et chez nous, en Afrique particulièrement, sur les Monsi, quand tu indexes une personne avec ton doigt, donc tous les quatre doigts sont à toi. Donc, quand tu dis à quelqu'un, fais attention, ça veut dire que toi, tu dois faire quatre fois attention. Lui doit faire attention une fois, mais toi, tu dois en faire quatre fois. Donc, cela est très important. Donc, je voudrais lire dans Hébreux chapitre 12. Hébreux 12, à partir du verset 1 à 2. Mais ma lecture même va se baser sur le verset 2. Mais pour bien comprendre, nous allons lire à partir du verset 1. Hébreux 12, chapitre 1, verset 1, il dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Donc, ça, c'est la lecture principale maintenant, qui est le verset 2. Ayant les regards sur Jésus. Donc, dans d'autres traductions, il dit ayant les regards fixés sur Jésus. Mais là, il dit ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir dans la grâce de Dieu. Quand je méditais sur ce verset, je me suis posé une question. J'ai dit, mais c'est des Européens, c'est des Blancs, c'est des hommes qui sont cultivés. Ils ont un bon enseignant. J'ai toujours répété, j'ai toujours dit, Michel n'est pas un pasteur, c'est un prophète. Vous m'excusez de ce terme? Mais c'est parce que j'ai vu, j'ai touché, que je dis. Les enseignements qu'il donne, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et j'ai dit, mais avec ce verset, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Qu'est-ce que je vais pouvoir donner ce matin pour que chacun de nous ici puisse aller de l'avant avec Dieu? Et je crois que ce que je vais sortir, les quelques notes que j'ai pu noter, va t'aider à aller de l'avant. Va t'aider à comprendre réellement le sens d'avoir les yeux sur Jésus. D'avoir les regards fixés uniquement que sur Jésus. Parce que quand nous avons les yeux fixés sur Jésus, nous ne pouvons plus regarder à gauche ou à droite. Nous ne pouvons plus nous tourner comme la femme de Lot qui avait tout et qui ne voulait pas regarder Dieu, suivre Dieu, comprendre la volonté de Dieu. Elle s'est retournée, elle est devenue une statue de sel. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes dans l'église, même dans l'église locale, oublient de regarder Jésus. Ils oublient de fixer les regards sur Jésus. Ils commencent à abandonner ce qui est primordial. Ils commencent à laisser ce qui est essentiel. Et ils veulent s'attacher à ce qui n'édifie pas. Voilà pourquoi il est si facile de laisser les distractions de ce monde, les choses de ce monde, les soucis de la vie quotidienne, captiver notre pensée, captiver notre attention. Au moment où nous n'avons pas réellement cette connaissance, la connaissance de la parole de Dieu, pour réellement savoir qui m'a appelé, qui m'a choisi, qui m'a prédestiné, qui m'a envoyé. Comme le fait la chanter, nous sommes ambassadeurs. Nous avons été envoyés. Mais au moment où nous laissons la mission, au moment où nous laissons de prendre en considération l'acte qui a été rédigé pour nous d'aller accomplir une mission, et nous voulons nous tourner ailleurs, là, en ce moment, nous perdons les pédales. Et il y en a beaucoup qui perdent les pédales. Pourquoi? Parce que tout simplement, leur mission est de regarder Jésus. Leur mission est de contempler Jésus afin de pouvoir recevoir de lui tout ce qui est nécessaire pour le bon combat de la foi. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On se laisse distraire par les choses qui se passent dans le monde. On se laisse distraire par les soucis de la vie quotidienne qui nous captivent. Si vous remarquez dans votre vie chrétienne, quelle évolution as-tu fait durant l'année 2008 et l'année 2009 qui a débuté? Et nous sommes aujourd'hui, cinquième mois de l'année 2009. Les temps filent. Bon, si tu vas t'arrêter, en cinq mois de cette nouvelle année, tu vas t'arrêter pour faire déjà un bilan. Un bilan pour voir comment tu as avancé avec Dieu dans l'intercession, comment tu as avancé avec Dieu dans l'amour fraternel, comment tu as avancé avec Dieu dans le ministère auquel il t'a confié. Je ne sais pas si beaucoup de monde le font, mais cela est très important. Ceux qui ont des entreprises, ceux qui ont des magasins, à un moment donné, ils doivent s'arrêter pour faire des comptes. Pour dire, bon voilà, nous sommes presque au milieu de l'année. Voilà, est-ce que ça a marché, ça n'a pas marché? Mais malheureusement, l'église de Jésus-Christ se laisse distraire par tout ce qui se passe dans le monde. Et au lieu de prendre les affaires de Dieu, au lieu de considérer le ministère auquel Dieu les a confiés, il laisse toutes ces choses-là pour faire ce qui ne glorifie pas Dieu. Frères et sœurs, ce matin, je ne suis pas là pour te parler uniquement de comment tu dois faire ou comment tu dois réagir. Mais je suis là pour te dire que toi et moi, nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus. Tant que tu n'as pas les yeux fixés sur Jésus, tant que Jésus-Christ n'est pas le centre de ta vie, en toute sincérité, on peut dire, je suis chrétien, je viens à l'église, comme hier le frère Michel me disait, qu'il y a des gens qui utilisent le verset, je me tiens à la porte et je frappe. Même moi, je suis évangéliste, je prêche, j'utilise ça, mais en réalité, ça c'est pas pour le monde. C'est pas pour ceux qui sont dans le monde, qui sont encore dans le péché. Mais c'est ceux qui sont à l'église et qui ont mis Jésus dehors. Ils ont mis Jésus dehors, hors de leur vie, hors de leur cœur. Et Jésus, il est dehors et il frappe. Il frappe, il dit, je vais rentrer dans ton cœur. Je vais rentrer dans ta vie. Je vais rentrer chez toi. C'est dehors l'église qu'il est en train de frapper. C'est pas dedans. C'est pas dans le monde. Mais aujourd'hui, voilà ce qui se passe. Comme l'église a oublié, ou je peux dire singulièrement, comme tu as oublié de regarder Jésus, comme tu as oublié de fixer tes yeux sur Jésus, tu commences à juger les frères. Tu commences à juger ton frère, ta sœur. Tu commences à dire, oui, toi tu es comme ça. Toi, tu es ceci. Mais qu'est-ce que tu veux? Et quand tu commences à juger ton frère et ta sœur, qu'est-ce qui va se passer? Tu commences à refroidir dans l'amour fraternel. Il y a un refroidissement total, comme dehors quand tu sors et tu fais froid. Tu refroidis comme ça. Tu commences à diminuer ton amour entre toi et Dieu, ton amour entre toi et ton frère et ta sœur. Tu commences à diminuer automatiquement. Parce que tu n'as plus les yeux fixés sur Jésus. Tu n'as plus les regards sur Jésus. On se contente simplement des miettes. Non, nous sommes fils de Dieu, comme l'intervention du pasteur Michel qui vient de le dire tout de suite. Nous sommes des poissons dans le monde, pas dans l'eau. Nous ne voulons pas rester simplement, parce que ça c'est spirituel. C'est pas de n'importe quoi. Excuse-moi si je te blesse, mais quand même si je te blesse, c'est pour que tu puisses aller plus loin avec Dieu. Je le crois. Et je le pense aussi. Donc, il est très important que toi et moi, nous puissions reconnaître que avoir les yeux fixés sur Jésus, cela va susciter la foi. Parce que tant que tu ne regardes pas Jésus, comment tu peux manifester ta foi? Comment tu peux manifester ton amour? Comment tu peux dire, démon, sors? Impossible. Impossible. Tu ne peux pas. Parce que tout se fait par la foi. Et non seulement susciter la foi, mais cela va amener à la perfection. Nous devons aller à la perfection. Nous perfectionner en quoi? Nous perfectionner en cherchant les démons. En autorisant à Satan de laisser les lieux. Il y a des lieux qu'il a occupés. Nous devons récupérer ces lieux-là. Au mois de février, j'ai organisé une grande campagne d'évangélisation. Il y avait plus de 800 personnes tous les soirs, pendant 5 soirées. Tous ceux qui étaient là, ils ont vu comment Dieu s'est manifesté. La puissance de Dieu qui s'est descendue sur le terrain. J'ai mobilisé les gens de l'église. Je les ai dit, écoutez, nous allons aller sur le terrain. On va faire d'huile d'onction, on va marcher, on va prendre possession, on va proclamer. Cela a été fait. Dieu s'est manifesté. Beaucoup de miracles. Au mois de mars, c'était la même chose. Je viens de recevoir le frère Marc Croza qui est venu. Et il a vu comment Dieu s'est manifesté. Vous voyez, moi j'ai compris une chose. Nous avons reçu une puissance. Parce que Christ lui-même nous a donné cette puissance-là. Qu'est-ce que nous faisons de cette puissance? Ce que tu as reçu de Dieu, dis-moi, ce matin, je t'en prie, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ce que tu as reçu. Ou peut-être que tu n'as rien reçu. Mais je ne crois pas à ça. Je crois que tu as reçu quelque chose. Mais tu n'as pas reçu ça simplement pour rester dans ton propre coin, dans ta coquille. Non. Tu as reçu pour aller de l'avant, pour soutenir, pour aider, pour apporter quelque chose de bien, pour transformer la vie des gens, pour que la foi soit suscitée, pour que tu puisses amener les autres à aller à la perfection dans leur propre vie. C'est ça ce que Dieu nous demande. Et c'est ce que nous devons faire. Vous devez savoir que lorsque tu fixes les yeux sur Jésus, je te dis, tu ouvres à celui qui peut te guérir. Tu ouvres la porte à Dieu qui est tout puissant, qui est le Père éternel, qui peut t'apporter la rédemption dans tous les sens, dans ta vie. Tu ouvres une porte auquel où Dieu, il peut pourvoir dans tout ce que tu demandes. De quoi as-tu besoin? Qu'est-ce que tu en as besoin? Moi, j'ai besoin de quoi? Dieu m'a dit, je vais t'envoyer dans beaucoup d'endroits, dans plusieurs endroits. J'ai été invité à l'université de Lecce pour traiter un thème, le regard de l'Afrique par rapport à l'Europe. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Donc, quand j'ai dit de prier pour moi, dans ce sens, il y a des gens qui m'ont dit, mais écoute là, tu pars, mais ça n'a rien à voir avec l'évangélisation. Ça n'a rien à... Mais je dis, mais écoutez, Dieu sait pourquoi il a permis que je puisse aller là-bas. Dieu sait pourquoi l'université m'a invité. Dieu sait pourquoi ce qui va se passer là-bas. Moi, je fais que suivre ce que Dieu veut. J'ai préparé la conférence, je vais aller traiter avec les universitaires. Je vais aller les dire, les parler. Ça rentre dans le domaine politique. Ça rentre dans beaucoup de domaines. Mais dans ça, je vais glisser et parler réellement qui est Jésus. Parce que je ne peux pas ne pas donner mon témoignage. Donc suite en donnant mon témoignage, c'est là que je vais prêcher. Et là, Dieu va se manifester. Mon frère, ma soeur, tu as reçu quelque chose. Tu n'es pas n'importe qui. Comme on l'a dit ce matin ici, tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelqu'un de spécial. Tu es plus qu'un extra... un extraterrestre. Tu es plus qu'un extraterrestre. Tu es plus que sorcier. Parce que chez nous, on aime parler de sorcier. Quand on dit Jésus, moi, je suis plus qu'un sorcier. Un sorcier ne peut même pas faire ce que je fais. Parce que sa puissance est petite. La puissance de Satan est petite. Satan ne peut rien faire. Il ne fait que des grimaces. Le peu qu'il a reçu de Dieu, c'est ça qu'il prend pour influencer le monde. Mais Satan sait à qui il peut influencer. Il sait à qui il peut s'amuser avec. S'il s'amuse avec moi, là, il aura des problèmes, des super problèmes. Ça, je dis la vérité. Quand j'ai fait la campagne d'évangélisation, les gens étaient là, j'ai dit, bon, maintenant, nous allons prier. Même les responsables de mon église étaient là. J'ai dit, nous allons prier aujourd'hui pour les malades. Nous allons prier pour ceux qui sont possédés, ceux qui ont des démons, ceux qui rentrent la nuit et qui ne peuvent pas dormir. Avancez devant. Tout le monde nous a avancé. J'ai dit aux gens, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Quand on a commencé à prier, les démons ont commencé à sortir. Les démons ont commencé à se manifester. Des gens ont reçu la guérison. Qui fait ça? C'est Dieu qui fait ça. Et tu as reçu ça pour le faire. Et rien ne peut t'empêcher. Souvent, c'est toi-même qui as l'obstacle. Parce que tu limites Dieu. Et quand tu limites Dieu, comment Dieu peut agir? Dieu ne peut pas agir. Car à chaque fois, tu dis, moi, je suis malade. Moi, ça ne va pas. Moi, dans ma vie, je ne comprends pas. Mais chaque fois, mais tu te limites et tu limites Dieu. Et Dieu, il ne peut pas agir dans ta vie. Nous ne devons pas limiter Dieu. Tu ne dois pas te limiter. Non. Tu dois toujours dire, je vais aller plus loin. Je peux faire ça. Rien ne peut m'empêcher. Parce que je connais à qui j'ai cru. C'est ça. Écoutez, je n'ai pas de diplôme. Non. Vous connaissez tous mon témoignage. Peut-être que d'autres ne le savent pas. Mais j'ai vu comment Dieu m'a amené. Si Dieu m'a utilisé, moi, qui étais réellement dans la poubelle, dans la saleté, et Dieu m'a fait sortir de cela pour m'envoyer dans des pays, dans des nations, écoute bien, Dieu peut faire plus que ça pour toi. Il peut le faire pour toi. Et rien au monde ne peut contrecarrer cela. Non. Le fait d'avoir les regards sur Jésus, qui suscite la foi et qui nous mène à la perfection, exigera de toi le renoncement à d'autres choses. Ce qui est évident et clair. Cela va exiger de toi à renoncer. Je ne peux pas. Je ne peux pas prier. Je ne peux pas méditer. Je ne peux pas lire la parole de Dieu. Je ne peux pas aller prier pour les malades. J'ai peur de cela. J'ai peur de ceci. Non. Cela va t'amener à renoncer toutes ces choses-là sur lesquelles tu avais porté les regards charnels et même diaboliques. Et même diaboliques. Ça, c'est très... N'oublie pas cette parole-là. Cela, c'est très important. De fait d'avoir les regards sur Jésus, je le répète, de fait d'avoir les yeux fixés sur Jésus, cela va susciter la foi et l'amener à la perfection. Et si une fois cela est fait, cela va t'exiger automatiquement, radicalement, de renoncer à toutes les mesquineries de ta propre chair, de Satan et des démons. Et c'est une vérité fondamentale qui se trouve dans la parole de Dieu. Et je crois bien que si toi et moi, nous mettons cela en pratique, il n'y a rien qui va nous empêcher de voir la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Rien. Sache bien que Jésus est la source de la vie. Il est non seulement la source de la vie, mais il est la source de ta vie. De ta vie, la vie à toi. Il est tout. Il est ta foi. Et c'est lui qui portera ta foi, ta vie à la perfection. Tu dois simplement garder les yeux fixés sur lui. Toi, tu ne peux rien faire. Mais tu agis en qui? Tu agis en lui. Moi, je suis en train de parler en lui. Toi, tu es en train d'écouter en lui. Nous faisons tout en Jésus. Voilà pourquoi le diable, il a peur de nous. Mais si nous ne comprenons pas cela, nous croyons que non, c'est nous qui devons avoir peur de Satan. Nous devons... Excuse-moi, depuis quand tu as cherché un démon? Depuis quand? Tu as commandé un démon de sortir? Depuis quand? Tu dois... Parce que, alors que tu as cette puissance en toi. Les démons sont partout. Ils sont partout. Les démons, ils sont partout. Chez nous, bon, excusez-moi de ce terme, mais chez nous, on donne tellement des noms. Hein? On dit les démons d'accident, les démons de fornication, les démons de suicide. Donc, on clarifie les démons comme ça. Et ces démons-là, ils sont partout. Par exemple, un exemple, sur les routes, dans chaque route, il y a des démons. Et leur mission, c'est de provoquer des accidents. En conduisant ta voiture, juste avant de tourner pour prendre cette route-là, quand tu prends la route, tu dis au nom de Jésus que tout démon qui est plaqué ou qui a été envoyé en mission sur cette route pour tuer, je vous oblige au nom de Christ Jésus. Je vous déloge. Quittez sur cette voie. Alléluia. Ça, c'est chercher des démons. C'est pas seulement voir la personne étant la personne est assise ici, possédée. Et puis, non, c'est pas seulement chercher les démons. La Bible dit que nous devons chercher. Nous sommes des chercheurs de démons. Les chercheurs de démons, c'est comme ça. On n'a pas besoin d'avoir les gens possédés et puis prier. Non. Il y a toutes sortes de démons. On dit, si vous vous souvenez bien, Daniel a prié. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé l'exaucement de la prière de Daniel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On dit que le roi des Perses, les démons de Perses, il a contre-carré la prière. Il y a des prières que vous faites. Vous priez. Mais au niveau de l'amblore, il y a un démon. Est-ce que je ne vous fais pas peur? Non, ce n'est pas pour vous faire peur. Vous connaissez déjà cela. Ce ne sont que des rappels que j'ai entendu dire. Il y a un démon. Ou même des démons. Et vous devez combattre contre ces démons pour libérer le village de l'Amblore. Pour libérer même la France, l'Europe, le monde. C'est ce que nous devons faire. Nous, écoute, tu as reçu quelque chose, un trésor. Ce que tu as reçu là, c'est plus que de l'argent. C'est plus que de l'or. C'est plus que des diamants. C'est plus que des habits. Ce que tu as reçu là, si Dieu t'ouvre les yeux, comme il a ouvert les yeux du serviteur d'Élysée, tu pourrais même pas imaginer ce que tu as reçu. Il ne faut jamais se sous-estimer. Non, devant Dieu, tu as reçu quelque chose de fort, de puissance. Il y a une puissance extraordinaire qui se trouve en toi. Et quand tu marches, la puissance des ténèbres est en train de trembler, d'être ébranlé, parce qu'il ne peut pas rester. Quand tu avances, quand tu arrives dans un endroit, les démons ne peuvent pas s'arrêter. Les ténèbres ne peuvent pas résister. Parce qu'il y a la lumière. Parce que toi, tu viens avec la lumière. Et là où il y a la lumière, il y a la délivrance. Là où il y a la lumière, il y a la guérison. Là où il y a la lumière, il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Et c'est toi. Toi, tu es la lumière. Tu es la lumière. Ce n'est pas le monde qui doit trouver des solutions. C'est l'Église qui doit trouver des solutions. Mais hélas, l'Église, excusez-moi ce terme, l'Église, pour ne pas trop dire, c'est comme si elle a failli un peu sa mission. C'est comme si elle a failli un peu sa mission. Des scandales, des critiques. Un pasteur est là, ils ne veulent même pas le sentir. Pourtant, c'est un serviteur de Dieu. Le frère, il est là, on ne veut même pas le sentir. Pourtant, c'est un enfant de Dieu. Mais vous voulez... Là, Jésus même a dit, une nation qui se divise contre elle-même, ou une maison qui se divise contre elle-même, c'est quoi? C'est la ruine. Voilà pourquoi le diable, il a su manigancer. Il a su manigancer. Pour que, pour affaiblir l'église. Parce que dans le monde, c'est l'église qui tient le monde. L'église qui tient le monde. Le jour, écoutez-moi bien, le jour où l'église sera enlevée, le jour où le Saint-Esprit de Dieu va se manifester et que la trompette va sonner et l'église va partir, ça sera le désordre total dans le monde. Ça sera le désordre total dans le monde. Actuellement, c'est à cause de toi, c'est à cause de moi que le monde est encore monde. Mais dès que toi et moi, nous allons partir dans le repos de Dieu, ce sera le chaos total dans le monde. Et ça, il ne faut même pas ignorer. C'est une vérité. Ce matin, ma prière est que toi et moi, nous puissions garder les yeux fixés sur Jésus. Ma prière ce matin est que nous puissions mettre en lui toute notre vie, toute notre foi, tout notre amour, afin que Jésus puisse nous donner la victoire en victoire dans tout ce que nous faisons. Ma prière est que Dieu te bénisse et que Dieu me bénisse pour que nous puissions aller de l'avant. Un jour, nous allons nous retrouver au ciel. Un jour, nous allons nous voir. Nous allons nous réjouir. Mais en attendant, la puissance que tu as reçue là, il faut mettre ça en valeur. Il faut valoriser ça. Il faut montrer à Satan, il faut montrer à tous ceux qui font confiance à Satan que Satan n'est rien. Pour que ces personnes-là puissent changer de vie et venir en Christ. Que Dieu te bénisse ce matin, au nom de Christ Jésus. Amen.